Chapitre 55. Dès qu'un souffle de vent faisait bouger les branches, des rayons de lune s'infiltraient à travers la frondaison et venaient danser devant les yeux de Callan comme des fantômes condamnés à une éternelle errance. L'inquisitrice plissait les yeux pour distinguer les silhouettes des grands arbres qui l'entouraient. Il n'y avait pas un bourdonnement d'insectes, pas un bruissement d'animal piétinant le lit de feuilles, pas de chant d'oiseaux nocturnes. Marchant à pas prudents sur le sol couvert de mousse, la femme de Richard faisait de son mieux pour ne pas se prendre les pieds dans une racine, trébucher sur une pierre ou glisser à cause d'une flaque de boue. Devant elle, Richard se faufilait dans la forêt avec la furtivité d'une ombre. De temps en temps, Callan ne l'apercevait plus et elle frissonnait à l'idée qu'il ait semé le groupe. Le sorcier avait ordonné le silence à tous ceux qui le suivaient. Il leur avait également demandé de marcher sans faire de bruit, mais aucun de ses compagnons n'était capable de progresser aussi discrètement que lui. Pour une raison inconnue, Richard était plus tendu que la corde de son arc. Il sentait que quelque chose clochait, mais il aurait été incapable de dire quoi. Alors que cette nuit aurait pu être douce et paisible, la façon d'agir du sorcier, combinée à un silence de mort, donnait à ses amis le sentiment qu'une catastrophe se profilait. Callan se réjouissait cependant que le ciel se soit éclairci. Ces derniers jours, la pluie avait empoisonné la vie des voyageurs, car même s'il ne faisait pas froid, l'humidité leur donnait le sentiment d'être transis jusqu'aux os. S'arrêtant dans un coin abrité aurait été judicieux, mais Richard avait besoin de la dernière dose d'antidote et tout retard risquait de lui coûter la vie. La dose de Northwick lui avait fait un peu de bien. La progression des symptômes étant enrayée, il avait eu quelques jours de répit, mais cette période bénie était révolue. Callan s'inquiétait tellement pour son mari qu'elle en avait perdu l'appétit. Désormais, deux fois plus d'hommes accompagnaient le sorcier et la mère inquisitrice. Beaucoup d'autres avançaient vers automne par des chemins différents. Ces groupes avaient pour mission d'éliminer les petits détachements de l'ordre cantonnés dans les villages. Richard, Callan et leurs compagnons avançaient aussi vite que possible vers automne. Ils évitaient délibérément l'ennemi afin d'arriver sur place sans que Nicholas soit informé de leur venue. Cette tactique semblait la meilleure pour récupérer en douceur la dernière dose d'antidote. Une fois qu'ils auraient le flacon, ils retrouveraient les autres combattants pour lancer une attaque massive. Selon Callan, commencer par éliminer Nicholas serait une très bonne façon de procéder. Sans chef, les troupes de l'ordre seraient beaucoup plus faciles à vaincre. Si elle pouvait approcher du sorcier, l'inquisitrice le toucherait avec son pouvoir. Bien entendu, elle n'avait pas parlé de son projet à Richard qui lui aurait interdit de prendre un tel risque. Callan se sentait en partie responsable de ce que les Bandakar avaient enduré sous le joug de l'ordre impérial. Si elle n'avait pas invoqué les Carillons, la frontière aurait toujours été là. Pourtant, si les piliers de la création parvenaient à chasser l'envahisseur, reprendre contact avec le reste du monde leur aurait rapporté rien de moins que la liberté et l'espoir d'une existence meilleure. Un bien pour un mal pour un bien. Les éternels paradoxes de l'équilibre. La métamorphose des citadins de Northwick avait de quoi regonfler le moral. Cette nuit-là, les résistants de Richard avaient veillé jusqu'à l'aube pour expliquer à leurs compatriotes tout ce que la vision du monde de l'inquisitrice et du sorcier pouvait leur apporter. Après l'élimination radicale des soldats qui terrorisaient leur cité, les Bandakar avaient chanté et dansé dans les rues. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas seulement découvert la valeur de la liberté. Ils s'étaient aussi aperçus que leurs antiques coutumes et leur vision du monde ne leur étaient d'aucune utilité pour améliorer leur vie. Après que Richard eut démontré que le sage n'était qu'un enfant effrayé, conditionné par les absurdes sophismes des grands porte-paroles, et encore plus après l'exécution des soldats de l'ordre, les hommes de Northwick s'étaient presque tous portés volontaires pour participer à la libération de leur pays. Enfin délivrés de leur cécité ancestrale, ils brûlaient d'envie de forger leur avenir de leurs propres mains. Callan percuta soudain les bras tendus de Richard. La surprise passée, elle se retourna et fit signe à la petite colonne de s'arrêter. Dans la forêt obscure, le silence était tel qu'on aurait entendu voler une mouche. Le sorcier retira son sac à dos, le posa sur un rocher, l'ouvrit et fouilla dedans.
« Que fais-tu donc ?» souffla Callan.
« Je cherche de quoi allumer du feu. Il nous faut de la lumière. Fais passer le mot. Quelques hommes doivent venir avec leurs torches. » Alors que Richard sortait son silex et son morceau d'acier, Callan répéta cet ordre à Kara qui le transmit à l'homme qui la suivait. Quelques instants plus tard, une dizaine de résistants approchèrent avec les torches qu'ils avaient fabriquées pendant une pause. Ils se massèrent autour du sourcier qui venait de ramasser sur le sol un bâton qu'il plongeait à présent dans une petite boîte, puis il passa la pointe sur une partie saillante du rocher. « C'est de la résine de pin, » expliqua-t-il au Bandakar. « Tenez vos torches au-dessus. Quand j'aurai embrasé la résine en produisant une étincelle avec mon silex, vous n'aurez plus qu'à les allumer. » Très difficile à trouver et à collecter sur les troncs pourris, la résine permettait de faire du feu sous la pluie. Une étincelle suffisait à l'embraser, même quand elle était humide, et ses flammes étaient assez vives et chaudes pour faire flamber du bois mouillé. Cela dit, songea Callan, Richard avait toujours été à l'aise dans l'obscurité, et elle ne l'avait jamais vu en quête de lumière comme cette nuit. Que pouvait-il y avoir d'inquiétant dans les ténèbres pour qu'il ne se fît plus à son instinct ? Kara, souffla le sourcier, fais passer le mot. Que tout le monde dégaine son arme, tout de suite. Sans hésiter, la mort de Sid se tourna pour transmettre la consigne. Après un long silence uniquement troublé par le bruissement de l'acier glissant contre le cuir, la réponse revint jusqu'à Kara.
C'est fait,
dit-elle à son seigneur.
Vous deux aussi, dit Richard à Callan et à Jensen.
L'inquisitrice tira au clair son épée. La sœur du sourcier dégaina son couteau à la garde d'argent ornée d'un R, le symbole de la maison râle. Richard fit jaillir une étincelle. La résine s'embrasa, le feu se communiqua aux torches et une vive lumière jaillit au cœur de l'épaisse forêt. Tous les hommes regardèrent autour d'eux pour voir ce qui se cachait dans l'obscurité. Certains ne purent étouffer un petit cri. Des coureurs à plumes à pointe noire étaient perchés dans les arbres. Des centaines d'oiseaux, leurs petits yeux mauvais rivés sur les humains. Un court instant, le temps parut suspendre son vol. Puis, les coureurs attaquèrent en hurlant. Il en venait de partout, bec et serre prêts à déchiqueter les chairs, et après un silence si profond, les cris de ces prédateurs étaient assourdissants. Les humains se défendirent avec une féroce détermination. Sous cette pluie d'oiseaux, certains hommes vacillèrent ou tombèrent, mais tous eurent le réflexe de se protéger le visage avec un bras et de frapper leurs agresseurs de l'autre. Les Bandakar, debout, protégèrent leurs compagnons le temps qu'ils se relèvent, puis le carnage commença. Callan coupa en deux un coureur qui lui piquait dessus, puis elle amputa un autre d'une de ses ailes. Avisant un oiseau blessé sur le sol, elle lui transperça le cœur juste avant qu'il ait pu lui flanquer un coup de bec vicieux dans la jambe. L'épée de Richard fendait inlassablement l'air et des plumes voltaient autour de lui. Les oiseaux attaquaient tout le monde, mais ils semblaient se concentrer plus particulièrement sur le sourcier. On eût même dit qu'il tentait de le couper de ses compagnons pour mieux lui régler son compte. Jensen frappait avec son couteau, Callan jouait de la lame, et Kara interceptait les prédateurs en plein vol afin de leur briser le cou. Partout, les Bandakar taillaient les oiseaux en pièces. Certains utilisaient leurs torches comme une arme, et des coureurs en feu tentaient vainement de reprendre de l'altitude pour échapper à leurs bourreaux. Les armes les réduisaient en bouillie, les décapitaient, les éventraient. La férocité de cette bataille dépassait l'imagination. Sur le sol, des dizaines de coureurs agonisaient en battant des ailes. D'autres se laissaient tomber des arbres pour les remplacer, s'offrant aux coups des défenseurs. Puis, soudainement, tout fut fini. L'attaque ayant cessé, les Bandakar entreprirent d'achever les prédateurs qui se tordaient encore de douleur à leurs pieds. Quand ce fut fait, le silence revint. Plus l'ombre d'une menace dans le ciel. Autour de Richard se dressait désormais une petite montagne d'oiseaux morts. Haletant, les vainqueurs sondèrent la cime des arbres et le ciel, mais il n'y avait plus rien. Le flot d'assaillants s'était enfin tari. Voyant que Richard avait les bras couverts de coupures, Callan traversa le sol couvert de coureurs morts pour aller récupérer le sac à dos de son mari. Pour s'en emparer, elle dut faire tomber le coureur éventré qui gisait dessus. Grimaçant de dégoût, elle poussa l'horrible oiseau de la pointe du pied puis sortit du sac un petit pot d'onguent.
Voyant qu'il titubait, Kara bondit aux côtés de Richard et le soutint.
« Que s'est-il passé, bon sang ?»
demanda Jensen en essuyant le sang, pas le sien, qui maculait son visage.
« Nos ennemis ont tenté d'en finir avec nous, »
répondit Owen. Jensen tapota le crâne de Betty qui venait de la rejoindre.
« En tout cas, » dit-elle, « une chose est sûre, ils nous ont retrouvés. »«
Non, c'est différent cette fois, » fit Richard. « Ils ne nous suivaient pas. Ils nous attendaient ici. » Tous les regards se braquèrent sur le sourcier.
« Que veux-tu dire ?»
demanda Callan tout en appliquant de longs gants sur les blessures de son mari.
« Ils nous suivent depuis le début, ils ont dû retrouver notre trace, voilà tout. »
Betty approcha et se plaqua contre la jambe de l'inquisitrice. N'étant pas d'humeur à cajoler la chèvre, celle-ci la repoussa sans ménagement. Richard posa une main sur l'épaule de Kara pour se soutenir. Il avait de plus en plus souvent des vertiges.
« Non, ils ne nous suivaient pas. Je n'ai rien vu dans le ciel. Ces maudits oiseaux nous attendaient. Ils savaient que nous arrivions et ils nous ont tendu une embuscade. »
Une idée terrifiante si le sourcier ne se trompait pas.
« Comment pouvait-il savoir où nous allions ?»
demanda Callan.
« Ça, je paierais cher pour le savoir. » avoua Richard.
Nicolas se glissa de nouveau dans son corps, dont la bouche était encore ouverte sur un bâillement qui n'en était pas un. Il étira son cou et sourit, ravi par ce qu'il venait de vivre. Une expérience grisante, vraiment inoubliable. Comme toujours après ses absences, il ne se sentait pas très assuré sur ses jambes. Cela lui rappela la façon dont Richard Rall titubait, les effets du poison qui le rongeait de l'intérieur. Le pauvre Richard avait besoin de sa dernière dose d'antidote. Nicolas eut de nouveau un bâillement qui n'en était pas un. Il brûlait d'envie de repartir à l'aventure, et ce serait pour bientôt. Il les espionnerait, les verrait s'inquiéter, tenter de comprendre ce qui se passait. Une partie de plaisir en perspective. Mais le plus drôle restait encore à venir. Ces idiots arriveraient dans quelques heures. Nicolas se slaloma entre les cadavres qui gisaient sur le sol. Tous ces gens étaient morts en même temps que les coureurs. Ils étaient entassés par terre comme les oiseaux tout autour de Richard Rall. Des morts si violentes. Ses âmes étaient horrifiées pendant la boucherie, mais elles n'avaient rien pu faire pour l'empêcher. À présent, le chapardeur ne les contrôlait plus car elles appartenaient aux gardiens du royaume des morts. Nicolas se passa une main dans les cheveux et frissonna de plaisir au contact des huiles qui les faisaient briller. Pour atteindre la porte, il dut traîner à l'écart trois cadavres.
« Najari !»
appela-t-il quand il eut enfin ouvert le battant. L'homme attendait dans le couloir et il accourut aussitôt.
« Oui ?»
Nicolas écarta les bras, tendant au maximum ses mains aux ongles noirs.
« Il faut nettoyer la salle, que des hommes me débarrassent de toutes ces charognes !»
Najari approcha et jeta un coup d'œil dans la pièce.
« Tous les gens que nous t'avons amenés ?»«
Oui, et j'ai même dû envoyer en chercher d'autres. Je n'ai plus besoin de ces morceaux de viande froide à présent. Nettoie-moi ce carnage !»
Lors de l'attaque, chaque coureur était dirigé par l'âme d'un trou dans le monde que contrôlait Nicolas. Cet assaut massif avait été un chef-d'œuvre de précision et de coordination. Mais la mort des coureurs avait entraîné celle des cobayes de Nicolas. Un jour, espérait-il, il saurait rappeler les âmes à l'instant où leur hôte périssait. Ça leur épargnerait de devoir se procurer sans cesse de nouveaux imbéciles. Cela dit, le matériel humain ne manquait pas, et s'il trouvait un moyen d'économiser les âmes, il devrait aussi apprendre à gérer les réactions de ses cobayes une fois qu'ils auraient conscience de ce qu'ils faisaient d'eux. Pour l'instant, le problème n'était pas dramatique. Mais Nicolas s'agaçait quand Richard Rall tuait les gens qui l'aidaient à le surveiller.
« Combien de temps ?»
demanda Najari. Nicolas ne se trompa pas une seconde sur le sens de cette question.
« Ils seront là très bientôt. Fais nettoyer la salle avant qu'ils arrivent, Puis, dis à tes hommes de se tenir à l'écart. Nos invités doivent être libres de leurs mouvements.
Comme tu voudras, Nicolas.
Empereur, Nicolas, s'il te plaît.
Oui, empereur,
répéta Nadjari en s'éloignant déjà.
Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi.
Le séide du chapardeur se retourna.
À quoi?
L'empereur Jagang, nous travaillons si dur, toi et moi. Pourquoi devrais-je courber les chines devant lui? Une légion de mon armée silencieuse pourrait l'attaquer et s'en serait fini de lui. En fait, je n'aurais même pas besoin d'une armée. Imagine qu'il chevauche son étalon un jour et que je sois tapis dans le crâne de la bête, attendant l'occasion de le désarçonner et de lui fracasser le crâne à coups de sabot.
Un bon plan.
Quelle est l'utilité de Jagang? Ne suis-je pas capable de diriger l'ordre impérial? Soyons réalistes. J'ai beaucoup plus de talent que lui.
Dans ce cas, que deviennent nos plans?
Pour l'instant, à quoi bon les modifier? Mais qui m'oblige à livrer la mère inquisitrice à Jagang? Et pourquoi lui abandonnerais-je le monde? Je pourrais garder la femme et m'offrir l'univers en prime.